Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, on se rappelle la formule de Paul Claudel pour désigner Verlaine, un fils de l'ardoise et de la pluie. Cette formule valait tant pour les poèmes saturniens que pour les fêtes galantes ou encore pour les romances sans parole. Cette filiation nordique de paysages belges ou d'aquarelles, ce sont là deux titres de groupements de poèmes des romances sans parole, sans jamais totalement disparaître, va laisser place à un Verlaine de briques et de soleil, selon la formule moins fine du critique Pierre Brunel. Et quelques réserves que l'on ait déjà manifestées vis-à-vis des explications biographiques, il est nécessaire de rappeler les conséquences de ce que l'on a coutume de nommer l'affaire de Bruxelles. Autrement dit, ce jour du 10 juillet 1873, au cours duquel Verlaine blesse Rimbaud d'un coup de pistolet qu'il atteint au poignet. Sans grande gravité, mais un chirurgien devra toutefois extraire la balle quelques jours plus tard. À la suite d'un premier procès, puis d'un second en appel, Verlaine sera condamné à 2 années de prison, qu'il purgera d'abord à la prison des Petits Carmes de Bruxelles, du 11 juillet au 24 octobre 1873, puis à la maison de sûreté de Mons, du 25 octobre 1873 au 16 janvier 1875. Cette expérience douloureuse, quoique Verlaine ait payé pour être mis à la pistole, c'est-à-dire que moyennant finance, le détenu dispose d'une cellule individuelle, un tant soit peu plus confortable, cette expérience donc conduira le poète à composer un recueil qui ne verra jamais le jour, mais dont on a retrouvé le manuscrit en 2004, manuscrit racheté par l'État et conservé au musée des lettres et manuscrits. Ce recueil, intitulé « Cellulairement », a été publié dans l'édition NRF Poésie Gallimard sous forme de triptyque, un premier volet avec les facsimilés du manuscrit, ensuite les poèmes eux-mêmes, et enfin le texte en prose autobiographique intitulé « Méprisons », référence non dissimulée à l'incarcération du poète italien Silvio Pellico sous les plombs de Venise, et référence bien sûr à son recueil de poèmes intitulé « Les mille prigioni ». Le recueil se compose, celui de Verlaine, le recueil se compose d'une ouverture intitulée « Au lecteur », dont le quatrain final précise, je cite Verlaine, « J'ai perdu ma vie et je sais bien que tout blâme sur moi s'en va fondre. À cela, je ne puis que répondre que je suis vraiment né saturnien. » Le corps central de l'œuvre cellulairement comporte 18 poèmes et un long ensemble de 10 sonnets est titré « Final » avec l'hémistiche énigmatique « Pauvre âme, c'est cela » que vient couronner la notation « Mons, 16 janvier 1875, sorti de prison ». Les 5 derniers poèmes du corps central de ce recueil sont considérés comme des poèmes sataniques où repasse l'image d'un Rimbaud jamais nommé. Il s'agit de Crimen Amoris, La Grâce, sous-titré Légende, Don Juan Pipé, sous-titré Mystère, et L'impénitence finale, sous-titré Chronique parisienne, et enfin Amoureuse du diable, également sous-titré Chronique parisienne. Nous allons lire alors le poème Crimen Amoris, Crime d'amour, sous-titré Vision, daté sur le manuscrit de Bruxelles, juillet 1873, et dont la notation à l'intérieur du poème « Le plus beau d'entre tous ces mauvais anges avait 16 ans » paraît en effet désigner sans embâge l'homme aux semelles de vent. Il faut souligner, enfin, avant de le lire, une audace remarquable. Le poème est écrit en vers de 11 syllabes, donc des endécasyllabes qui, pour les uns, magnifient Rimbaud, mais qui, pour le critique Octave Nadal, je le cite, « stigmatise l'attitude rimbaldienne, la sublime puérilité, estime Verlaine, de sa révolte, qu'il apparente à celle de Satan et de ses suiveurs en malédiction. » Octave Nadal ajoute, je le cite, « Verlaine a rendu au vers de 11 syllabes sa puissance intrinsèque de dissonance. » Notons enfin que Rimbaud lui-même emploiera ce maître, cette division métrique, prosodique, dans ce qu'on nomme improprement ses derniers vers, par exemple dans L'Arme, dans La rivière de Cassis, et dans des textes particulièrement forts mais énigmatiques, comme « Est-elle almée ?» ou dans le poème « Michel et Christine ». Et donc, dans ces poèmes, dans ces endécasyllabes, on peut penser que les deux poètes ont cherché ce qu'on nomme un chant amébé. C'est un terme technique qui désigne que deux voix se répondent en alternance. Alors, je vais lire une version qui est, à mon sens, différente de celle qu'on trouve avec le manuscrit de Cellulairement dont j'ai parlé, puisque c'est une version, à mon sens, plus forte, puisqu'au lieu de nommer le pire et le mieux, comme dans le manuscrit de Cellulairement, la version que je vais lire nomme plus explicitement le bien et le mal, formant une sorte de contrepoint à Une saison en enfer, le texte que Rimbaud était venu déposer à la prison de Mons lorsque Verlaine y était incarcéré. Notons qu'il y a deux termes peut-être qui réclament une explication, deux termes un peu techniques. Le premier, c'est le terme de paillon qui désigne une plaque de métal sur laquelle on peut incruster des pierreries. Et le second, c'est un ceste en deux mots, à savoir la bande garnie de plomb dont les pugilistes de l'Antiquité s'entouraient les mains pour frapper avec plus de violence. Voici donc le texte de Verlaine, intitulé « Crimen Amoris » et sous-titré « Mystère ». Dans un palais soie et or, dans Ecbatane, de beaux démons, des satans adolescents, au son d'une musique mahométane, font litière aux péchés de leurs cinq sens. C'est la fête aux sept péchés. Oh, qu'elle est belle! Oh, les désirs rayonnaient en feux brutaux. Les appétits, pages prompts que l'on harcèle, promenaient des vins roses dans des cristaux. Visage d'or, corps de marbre et pieds d'argile jetaient leur ombre immense sur les tapis. Oh, qui dira dignement la danse agile et les plaisirs aux yeux des femmes tapies. Et la bonté qui s'essorait de ces choses était vraiment singulière, tellement que la campagne autour se fleurit de roses et que le ciel paraissait en diamant. Or, le plus beau d'entre tous ces mauvais anges avait 16 ans sous sa couronne de fleurs. Croisant ses bras sur ses colliers et ses franges, il songeait l'œil plein de flammes et de pleurs. En vain la joie alentour était immense, en vain les satans, ses frères et ses sœurs, pour dissiper cette morose démence, le consolaient avec des mots caresseurs. Il résistait à toute câlinerie et le souci mettait un paillon noir à son beau front chargé de bijouterie. Oh, l'immortel et terrible désespoir! Il s'écriait « Oh, vous, laissez-moi tranquille !» Puis, les ayant baisés tous bien tendrement, il s'évada d'avec eux d'un geste agile, leur laissant aux mains des pans de vêtements. Le voyez-vous sur la tour la plus céleste du haut palais, avec une torche au poing? Il la brandit comme un héros fait d'un ceste. D'en bas, on croit que c'est une aube qui point. Qu'est-ce qu'il dit de sa voix profonde et tendre, qui se marie au claquement clair du feu et que la lune est extatique d'entendre. « Oh, je serai celui-là qui créera Dieu ! Nous avons trop souffert, tous, anges et hommes, de cet exil aussi morne désaveu, humilions, misérables que nous sommes, tous nos élans dans le plus simple des vœux. Ô les pêcheurs, ô les saints ouvriers tristes, de vos travaux pour quelques maîtres têtus, que n'avez-vous fait en habile artiste, de vos efforts la seule et même vertu? Vous le saviez qu'il n'est point de différence entre ce que vous dénommez bien et mal, qu'au fond des deux, vous n'avez que la souffrance. Je veux briser ce pacte trop anormal. Il ne faut plus de ce schisme abominable. Il ne faut plus d'enfer et de paradis. Il faut l'amour. Meurs Dieu, meurs le diable. Il faut que le bonheur soit seul. Je vous dis, et pour répondre à Jésus qui crut bien faire en maintenant l'équilibre de ce duel, par moi, l'enfer, dont c'est ici le repère, se sacrifie à l'amour universel. Sûr de renaître en des fraîcheurs aurorales, l'enfer se brûle afin de voir réunis les sept péchés aux trois vertus théologales dans le ciel libre où monte le cri des nids. La torche tombe de sa main éployée et l'incendie alors hurla, s'élevant, querelle énorme d'aigles rouges noyée au remous noir de la fumée et du vent. Et les satans mourants chantaient dans les flammes. Ayant compris, ils étaient fiers et joyeux, et ce beau cœur de voix d'hommes et de femmes flambait avec les pavillons somptueux. Et lui, dont nul ne sait le nom ni l'histoire, droit sur la tour où le feu monte en léchant, en attendant la mort ivre de sa gloire, mêlait l'accent de son orgueil à ce chant. Les bras tendus au ciel comme vers un frère, un grand sourire aux lèvres, il s'exaltait. Quand retentit un affreux coup de tonnerre, tout s'éteignit. Seul, un rossignol chantait. On n'avait pas agréé le sacrifice. Quelqu'un de fort et de juste assurément, au nom du ciel provoqué, faisant l'office de justicier, envoyait ce châtiment. Du haut palais aux cent tours, pas un vestige, rien ne resta dans ce désastre inouï, afin que, par un formidable prestige, ceci ne fût qu'un vain rêve évanoui. Et dans la nuit, doucement dans une plaine, un petit bois agitait ses rameaux noirs. De clair de lune au lointain, l'herbe était pleine. De petits lacs luisaient comme des miroirs. Le rossignol épanchait sa triste plainte, répercutée au gazouillis des oiseaux. Ce paysage était d'une paix si sainte qu'on se fut mis à genoux dans les roseaux, sur les cailloux parmi le sable des routes, attendri sous ce ciel immémorial, pour adorer dans toutes ses œuvres, toutes, le Dieu clément qui nous sauvera du mal. on l'a dit, le recueil Cellulairement ne verra jamais le jour et les poèmes le composant seront dispersés dans les recueils à venir. Enfin, tout lecteur de Verlaine désireux de saisir avec finesse le lien qui l'unissait à Rimbaud se doit d'entendre et de lire ou relire le poème intitulé « Laeti et errabundi ». Autrement dit, puisque le poète évidemment pratiquait, comme Rimbaud du reste, à merveille le latin, autrement dit « joyeux et vagabond ou errant », contrepoint fait d'hommage au poème baudelairien « Moesta et errabunda », triste et errante, et comme autant de pierres placées pour franchir un gué poétique, on lira ensuite non seulement « Laeti et errabundi » qui fait partie du recueil parallèlement, mais aussi certains des poèmes du recueil des 105 dédicaces écrites en janvier 1893, donc après la mort de Rimbaud en novembre 1891. Ces dédicaces, le plus souvent des sonnets, évoquent entre autres Mallarmé, Léon Blois, Villiers de l'Isle-Adam et nombre d'amis de Verlaine. Donc je vais lire à présent « Laeti et errabundi ». Les courses furent intrépides, comme aujourd'hui le repos pèse par les steamers et les rapides. Que me veut cette at-home obèse ? Nous allons, vous en souvient-il, voyageurs où ça disparut, filant léger dans l'air subtil, deux spectres joyeux, on eût cru, car les passions satisfaites, insolemment outre mesure, mettait dans nos têtes des fêtes et dans nos sens que tout rassure, tout, la jeunesse, l'amitié, et nos cœurs, ah, que dégagés des femmes prises en pitié et du dernier des préjugés, laissant la crainte de l'orgie et le scrupule au bon ermite, puisque quand la borne est franchie, Ponsard ne veut plus de limite. Entre autres blâmables excès, je crois que nous bûmes de tout, depuis les plus grands vins français, jusqu'à ce faro, jusqu'au stout, en passant par les eaux de vie qu'on cite comme redoutables, l'âme au septième ciel ravie, le corps plus humble sous les tables. Des paysages, des cités, posaient pour nos yeux jamais là. Nos belles curiosités eussent mangé tous les atlas, fleuves et monts, bronzes et marbres, les couchants d'or, l'aube magique, l'Angleterre, mère des arbres, fille des beffrois, la Belgique, la mer, terrible et douce au point, brochait sur le roman très cher, que ne discontinuait point notre âme, et quid de notre chair, le roman de vivre à deux hommes, mieux que non pas d'époux modèles, chacun ôta versant des sommes, de sentiments forts et fidèles. L'envie, aux yeux de Basilic, censurait ce mode d'écho, nous dignons du blâme public et soupions du même fricot. La misère aussi faisait rage. Par des fois, dans le phalanstère, on ripostait par le courage, la joie et les pommes de terre. Scandaleux sans savoir pourquoi, peut-être que c'était trop beau, mais notre couple restait quoi ? Comme deux bons porte-drapeaux ? Quoi dans l'orgueil d'être plus libre que les plus libres de ce monde ? Sourd aux gros mots de tout calibre, inaccessible au rire immonde. Nous avions laissé, sans émoi, tous impédiments dans Paris, lui quelques sots bernés, et moi certaines princesses souris, une sotte qui tourne à pire. Puis soudain tomba notre gloire, telle, nous, des maréchaux d'empire, déchus en brigands de la Loire, mais déchus volontairement. C'était une permission, pour parler militairement, que notre séparation, permission sous nos semelles, et depuis combien de campagnes. Pardonnâtes-vous aux femelles ? Moi, j'ai peu revu ces compagnes, assez toutefois pour souffrir. Ah, quel cœur faible que mon cœur ! Mais mieux vaut souffrir que mourir, et surtout mourir de langueur. On vous dit mort, vous, que le diable emporte avec qui la colporte la nouvelle irrémédiable qui vient ainsi battre ma porte. Je n'y veux rien croire. Mort, vous ? Toi, Dieu parmi les demi-dieux ? Ceux qui le disent sont des fous. Mort, mon grand péché radieux, tout ce passé brûlant encore dans mes veines et ma cervelle, et qui rayonne et qui fulgore sur ma ferveur toujours nouvelle. Mort, tout ce triomphe inouï, retentissant sans frein ni fin sur l'air jamais évanoui que bat mon cœur qui fut divin. Quoi, le miraculeux poème et la toute philosophie, et ma patrie et ma bohème, mort ? Allons donc, tu vis ma vie. Et lisons donc dans le recueil dédicace dont je parlais les deux sonnets dédicacés, dédiés à Arthur Rimbaud. Voici le premier. Mortel, ange et démon, autant dire Rimbaud, tu mérites la prime place en semé un livre, bien que tel sot Grimaud t'ait traité de ribaud, imberbe, et de monstres en herbe et de potaches ivres. Les spirales d'encens et les accords de lutte signalent ton entrée au temple de mémoire, et ton nom radieux chantera dans la gloire, parce que tu m'aimas ainsi qu'il le fallut. Les femmes te verront, grand jeune homme très fort, très beau, d'une beauté paysanne et rusée, très désirable, d'une indolence causée. L'histoire t'a sculpté, triomphant de la mort, et jusqu'aux purs excès, jouissant de la vie, tes pieds blancs posés sur la tête de l'envie. La seconde dédicace à Arthur Rimbaud est sous-titrée « Sur un croquis de lui par sa sœur ». Il s'agit d'un dessin de sa sœur Isabelle, le représentant en costume oriental, avec cet épigraphe qui est tiré des textes de Rimbaud, « Des climats perdus me tanneront ». Toi, mort, 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 mais mort du moins tel que tu veux, en nègre blanc, en sauvage splendidement, civilisé, civilisant négligemment. Ah, mort, vivant plutôt en moi de mille feux, d'admiration sainte, et de souvenirs feu, mieux que tous les aspects vivants, même comment grandiose, de mille feux brûlant vraiment, de bonne foi dans l'amour, chaste aux fiers aveux. Poète qui mourut comme tu le voulais, en dehors de ces Paris-Londres moins que laid, je t'admire en ces traits naïfs de ce croquis, don précieux à l'ultime postérité, par une main dont l'art naïf nous est acquis, Rimbaud, pax tecum sit, Dominus sit cum te. Lisons pour finir le tombeau que Mallarmé a écrit à la mémoire de Verlaine. Ce tombeau est sous-titré « Anniversaire janvier 1897 » car Verlaine était mort le 8 janvier 1896, puis enterré au cimetière des Batignolles. Ce sonnet très énigmatique inclinera le lecteur à reparcourir l'œuvre de Verlaine. Le noir roc courroucé que la bise le roule ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains, tâtant sa ressemblance avec les mots humains, comme pour en bénir quelque funeste moule. Ici, presque toujours, si le ramier roucoule, cet immatériel deuil opprime de main nubile pli l'astre mûri des lendemains dont un scintillement argentera la foule. Qui cherche parcourant le solitaire bon, tantôt extérieur de notre vagabond, Verlaine ? Il est caché parmi l'herbe, Verlaine, à ne surprendre que naïvement d'accord, la lèvre sans y boire, ou tarir son haleine, un peu profond ruisseau, calomnier la mort. Comme l'affirmait Mallarmé, il est caché parmi l'herbe Verlaine. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement, d'abord du compositeur tchèque Leos Janáček, une poádka, c'est-à-dire un conte de fées, interprété au violoncelle par Miklós Perényi et au piano par son frère Benjamin. Puis vous avez pu entendre l'intermezzo opus 118 numéro 2 de Brahms, interprété par Anna Fedorova, ainsi que l'intermezzo opus 117 numéro 2, interprété par Kühn le pianiste sud-coréen Kun Woo-baek, et enfin le Capriccio opus 76 numéro 1 interprété par Ivo Pogorelitch. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.